RMC, cours numéro 1.
Salut à tous, nouveau numéro de cours numéro 1, votre podcast sur RMC, disponible tous les jours pendant cette quinzaine de Roland-Garros. Et il va falloir qu'on aille chez le cardiologue, Eric Sadio, Sarah Pitkowski, parce que bonjour, bonsoir d'abord.
Bonjour, bonsoir, mais est-ce qu'on dit à quelle heure on enregistre ?
On enregistre actuellement 20h, alors qu'il devait y avoir un match à 19h30 entre Flavio Cobolli et Matteo Arnaldi. Bonjour Eric Sadio.
Bonjour. Ciao. Ciao, come stai ?
Et on est encore sous le choc. Et pourquoi je dis qu'on va aller voir un cardiologue au-delà de toutes les surprises ? Eh bien, une autre surprise, le forfait. Une heure même pas avant l'entrée sur le court de Matteo Arnaldi, victime d'un virus. Il n'y a donc pas de deuxième demi-finale en simple homme. Pour rejoindre Alexander Zverev qui s'est imposé un peu plus tôt dans la journée face à Jakub Mensik, et on va y revenir, eh bien Flavio Cobolli ne dispute pas de demi-finale. Sauf que, Eric, c'est sous tes yeux, parce qu'on est toujours dans notre petit coin de la tribune média du cours Philippe Châtrier. Flavio Cobolli, il est sur le terrain, dans une atmosphère et dans un moment quasi inédit, c'est du jamais vu.
C'est une scène totalement lunaire, parce que le central est bien rempli, il est 19h30. Et Cobolli, donc, après avoir appris le forfait de son copain, pouvait pas ne pas taper la balle. Donc, il est sur le central actuellement avec un sparring partner. Et il y a quoi ? Il y a 5-6 000 personnes qui sont là. Donc, des gens qui ont d'abord digéré la déception du forfait. Donc, savoir pas de demi. Bon, ils seront remboursés, on en parlera. Mais ils se sont dit, bah oui, mais on est là. Autant profiter de l'endroit, de notre siège et d'assister donc à un entraînement de Flavio Cobolli. Mais bon... C'est une maigre consolation, mais c'est une scène totalement lunaire parce qu'un forfait en demi-finale de Schlem, on a beau chercher, Sarah, ça n'est jamais arrivé. Donc c'est terrible pour le tournoi.
Un forfait à même pas une heure de l'entrée sur le court. C'est surtout ça, on a déjà vu des forfaits. On se souvenait de Nadal, mais on avait été prévenu bien en amont. Là, et on va écouter Matteo Arnaldi dans un instant, mais Sarah, c'est lunaire, c'est fou comme ce Roland-Garros. Quoi.
Oui, c'est fou. Alors... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Roland-Garros, les deux demi-finales, elles sont séparées. C'est donc deux billetteries différentes. C'est pour ça qu'il y en a une qui commence à 15h et l'autre à 19h et qu'il y a un laps de temps qui permet de vider le central et de faire rentrer en fin de journée les détenteurs de billets de la deuxième demi-finale. C'est là que c'est terrible et comme tu dis, c'est lunaire. C'est que finalement, ça peut arriver qu'un joueur se blesse avant de rentrer sur le court, mais que finalement... Ben, ces gens qui sont là, ils n'ont pas vu la première demi-finale, donc ils n'ont pas eu de tennis de la journée. C'est là où on se dit, ben, c'est dommage, c'est frustrant, c'est voilà. Mais le court continue de se remplir, parce que alors il faut se dire qu'il y a un rayon de soleil en fin de journée, que le stade est aussi très agréable, on peut flâner dans les allées, il y a moins de monde dans les derniers jours, on peut aller faire les boutiques, on peut dîner. Mais en fait, on vient pour voir un match de tennis, et c'est terrible. Alors il restait quelques matchs du tournoi des légendes, mais à l'heure où on se parle, là, tout est terminé. Il n'y a plus aucun match à Roland-Garros.
Bah finalement, avant d'écouter Arnaldi, écoutons les spectateurs. Diane Carlotti de la rédaction de RMC Sport. Dès qu'on a vu Eric qui nous racontera les coulisses, qui est revenu en montant les 3 étages par l'escalier essoufflé. Arnaldi est forfait. On a envoyé Diane Carlotti dans les allées de Roland-Garros et elle a interrogé des spectateurs. Vous voyez les réactions, elles sont multiples et évidemment beaucoup de déceptions.
Ouais, je suis très très déçu. Je m'attendais à voir une finale qui change. De base, je voulais voir Sinner. Là, je vois rien du tout. Là, déception totale. Là. J'ai demandé si c'était un prank. Peut-être qu'il y avait de l'humour cette année, je sais pas. Peut-être c'était pour libérer des places, je sais pas, mais...
On est dégoûté. J'avais pris des places avec mon grand-père, là. C'était la seule fois qu'on venait de Roland et on est meurtri. Ça fait 43 ans qu'il n'est pas venu. La dernière fois qu'il est venu, c'était pour la finale de Yannick Noah. Donc, grosse émotion, là. On sait pas trop comment gérer.
Arnaldi forfait, qu'est-ce que ça vous fait ?
Ah, je suis dégoûté, hein. Je voulais bien aller voir le match, mais là, je suis dégoûté. Hein.
Oh my God, there's no match. I've come all the way from Singapore. Yeah, for the men's semi-finals, like 10,000 miles away.
Oh mais c'est incroyable, alors on entend l'ambiance pour pousser Cobolli, mais revenons sur ces spectateurs, Eric. Diane a rencontré un jeune homme qui, avec son grand-père, n'était pas revenu depuis Noah 83 à Roland-Garros. Ce Singapourien qui a fait plus de 10 000 km pour venir voir une demi-finale de Grand Chelem. C'est un événement mondial, une demi-finale. Donc quand le match n'a pas lieu, c'est aussi un retentissement incroyable et des conséquences incroyables.
Ouais, je suis en train de réfléchir. Je crois que Roland est le seul chelem à faire deux doubles billetteries pour les demi-finales, puisque Wimbledon, non, c'est à la suite. Melbourne, je me pose des questions. Et l'US, non, je crois que l'US, il y a un autre before, mais il n'y a pas de double billetterie. Donc là, ouais, est-ce qu'il y aura un manque à gagner pour la Fédé? Ben, je pense que Sarah va pouvoir nous répondre parce qu'elle a travaillé longtemps dans la com. Elle était parfois en réunion de crise, j'imagine. Donc oui, c'est un gros coup dur pour la FFT, Sarah.
Parce que, juste avant de te donner la parole, Sarah, ça a été indiqué, les billets seront intégralement remboursés. Parce que là, c'est pas qu'on a joué une heure, on a joué zéro minute.
Ah non, mais effectivement, donc il y a déjà la perte de toute la billetterie de ce match-là. Mais après, il y a aussi toute une partie partenariale où il y a le dîner avec le match. Et là, les gens ont dîné, hein, forcément. C'est là où je ne sais pas comment ça va être envisagé. Est-ce que ça va être probablement une réduction pour l'année d'après? Mais oui, la perte, elle est conséquente. Hein. Ça, c'est inévitable. Et je ne pense pas qu'il y ait d'assurance, puisqu'on sait que les événements sportifs sont de plus en plus durs à assurer, qu'il fut un temps quand il n'y avait pas de toit. On remboursait s'il n'y avait pas 30 minutes de jeu. Donc, autant dire que Roland-Garros attendait les éclaircies pour faire rentrer les joueurs sur le court, même 30 minutes, pour ne pas avoir à assumer ça. Parce qu'il n'y a plus d'assureurs qui veulent prendre le risque de ce genre de situation. Donc, c'est sûr qu'avec le toit, la billetterie des cours centraux, elle est forcément assurée. Mais là, le fait de ne pas rentrer, et avec cette double billetterie, c'est juste tellement inédit que je pense qu'on va même réfléchir, et je suis quasiment sûr qu'ils vont réfléchir à avoir pour les demi-finales les années prochaines un plan B, c'est-à-dire une exhibition ou en tout cas pré-calée, parce qu'on peut sortir une exhibition à ce moment-là juste pour faire passer la soirée. Oui, mais enfin Mansour, il était sur le cours Suzanne Lenglen.
Il est fatigué, Mansour, Sarah.
Oui, on est d'accord, mais je pense que là, il y aura forcément des conséquences dans le sens où ils vont essayer de prévoir quelque chose au cas où ça se reproduise. Parce que tu tires forcément des conséquences et des leçons des galères dans lesquelles tu tombes, quoi.
Alors avant de se pencher sur Arnaldi qu'on va entendre, victime d'un virus, le cérémonial est incroyable, Eric. Vous avez entendu la marque Maury en fond. Koboli qui est rentré avec les jeunes enfants, il y a eu la photo. Enfin, c'était assez irréel quand même.
Oui, j'ai cru que Marc Maury allait énumérer le palmarès de Flavio Koboli. Il avait été 11 mondial, il a remporté. Non, mais il a même parlé du sparring partner, on peut le citer, c'est Liam Branger. C'est lui donc qui a été désigné pour taper là-bas avec Koboli. J'ai qu'une trouille. Il ne faut pas qu'il se fasse une cheville, là, parce que là, ce serait la catastrophe. Parce que là, au moment où on se parle, on connaît l'affiche de la finale, mais si ça se trouve, dans une demi-heure, il va se blesser. On connaîtra le vainqueur de Roland-Garros. Non, arrêtons là.
Encore 48 heures, on va peut-être rappeler Mensik, mais non, il n'y a pas de lucky loser à ce stade de la compétition. Donc Arnaldi, victime d'un virus, on va écouter l'italien, c'est en anglais, on revient derrière et on vous explique ce qu'il dit pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Il s'est exprimé à 19h ce vendredi avec à ses côtés Koboli et à bonne distance, parce qu'effectivement on parle d'un virus. Matteo Arnaldi.
It's difficult to be here. It's not what I wanted to do. But last night I started to feel not very well. Like yesterday, I was feeling okay. I came here to practice. I did everything I had to do, and I was feeling fine. And then I had dinner. I started to feel so with my stomach. I was like, all right, I just didn't digest very well. But then I woke up at 1 a.m. and I started vomiting, and I wasn't like feeling the best. Then I tried to sleep. I couldn't sleep at all, and at 6-7 a.m. I vomited again, and that this time was pretty bad, and I have to withdraw from the first Slam semi-final. It's not something that you wish to anybody. And
donc voilà, il a passé une nuit horrible, il a vomi dès 1h du matin, il a essayé de dormir, c'est revenu à 6h, totalement déshydraté, je ne peux pas boire, je ne peux pas manger, je ne peux pas bouger. Bon, c'est une sage décision, même si c'est présenté au stade de Roland-Garros, mais dans cet état-là, on ne peut pas tout simplement faire du sport de haut niveau et même faire du sport tout court, Sarah.
Ben oui, c'est surtout, il risque aussi pour sa santé et son physique. C'est-à-dire que quand on est totalement déshydraté, il peut se passer n'importe quoi, une blessure, une cheville, un claquage. Et il l'explique aussi, c'est OK, rentrer sur le court pour faire 2-3 jeux et voir qu'il peut à peine bouger, c'est autant de respect pour les spectateurs que d'annoncer qu'il bah voilà, il peut pas rentrer sur le terrain. Donc c'est triste, c'est malheureux, c'est désolant. Et comme il dit, sa première demi-finale en Grand Chelem, ne pas pouvoir la jouer et de voir laisser sa place sans batailler. Enfin, bah, entre Arnaldi et Berrettini, ils n'ont pas trop de bol que ça, hein, les Italiens. Parce qu'on sait que Berrettini, lui, il a abandonné pour blessure encore. Donc, oui, ce Roland-Garros, il est totalement fou. En fait, il a commencé à être fou à partir du moment où Sinner, au bout d'une heure 45 de jeu, sous 40 à l'ombre, a eu une défaillance colossale. Et à partir de là, il s'est passé des choses. Je pense que tous les parieurs du monde, tous les pronostiqueurs du monde ne pouvaient pas envisager. Donc, que dire ? Je pense qu'il n'y a plus de favoris pour la finale dames. Il n'y a plus de favoris pour la finale hommes. Il peut se passer n'importe quoi dans ce tournoi.
Alors, peut-être qu'Eric ne va pas être d'accord parce que lui, son tournoi a basculé dès le forfait d'Arthur Fils, hein, Eric.
Oui, non, on a une pensée pour Arthur Fils. Cela dit, avec le recul, Arthur Fils aurait dû jouer Zverev en 8e. Hein. Donc, calmons-nous. Non, je voulais aussi revenir sur les déclarations de Flavio Cobolli, puisqu'ils étaient dans la même salle d'interview. Il a raconté en anglais que quand son copain est venu lui annoncer, il a failli pleurer, quoi, parce qu'il était triste pour son pote, et c'était sincère. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au moment, quelques secondes après la première demi-finale entre Zverev et...
Mensik,
il est tombé dans les bras de son staff parce que ça a officialisé son statut de top 10. Donc il est passé d'une une vraie joie, parce que c'est un objectif d'une vie, hein, Sarah, être top 10. Et puis après, la consternation, la tristesse pour son copain. Et ensuite, ils ont essuyé les tables et c'est Sacha Zverev qui est venu en conférence de presse. On vous révèle tout. Moi, j'étais dans la salle de presse quand j'ai entendu une annonce de Marc Maury qui annonçait donc le forfait de Cobolli. Donc, je suis remonté d'Arnaldi et je suis remonté en quatrième vitesse pour intervenir dans Rotten sans flamme. Mais ça, c'est terrible, quoi. Ça me rappelle un peu effectivement le forfait de Nadal à Wimbledon qui avait permis à Kyrgios d'être en
demi, et donc en
finale.
En demi, oui.
Eh bien oui, c'est le même cas en fait, oui. Eh ben,
non,
oui.
C'était en quart,
je crois. C'était en quart.
Il avait été qui en demi, je ne me souviens plus, mais on vérifiera. Il a été en finale, il perd la finale sur Djoko, oui.
Enfin, là, je parle de spectateurs du côté de l'organisation. Bon, il n'y a que chez nous où on fait les deux quarts sur deux jours différents. Mais les quarts, enfin, je veux dire, tu as deux matchs. Donc, c'est moins pesant pour l'organisation. Là, c'est un coup de massue, mais terrible, terrible. Même à se poser la question de savoir, faut pas revoir le fait de la double billetterie, en fait. Parce que les bénéfices générés par la double billetterie depuis
3 ou 4 ans facile, hein.
Depuis 5 ans même. Mmh. Depuis 5 ans, elle va peut-être être perdue en une édition. Hein.
Ouais, je suis pas sûr que ça plombe le bilan qui est toujours très positif de Roland Garros. Hein. On va pas être, les comptes seront pas dans le rouge quand même quand on sait ce que ça génère tout au long de la quinzaine. Ça, faut pas non plus être trop pessimiste de ce point de vue-là.
Mais quoi qu'il arrive, c'est une tuile, quoi. C'est une tuile au point de peut-être remettre en cause certaines décisions et, comme je le disais, peut-être des choix ou des plans B à prévoir.
C'était bien une demi, hein. C'était bien une demi. Kyrgios devait jouer Nadal, donc. Mais on savait que Nadal était touché depuis la veille aux abdos et donc l'officialisation est arrivée le jour de la demi ou la veille. Non, la veille, parce que comme ça ils ont pu s'organiser, si je puis dire. Les Anglais, ils avaient la première demi et sûrement un double derrière. Là, ils pouvaient.
Parlons tennis, puisque nous avons eu la chance, nous, d'être là pour la première demi-finale et donc la victoire de Sacha Zverev. 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Un métronome allemand pour Sacha Zverev qui a cédé un set pour la deuxième fois dans le tournoi. On le rappelle parce que c'était un Français la première fois, c'était Quentin Lys au troisième tour. Mais vraiment, un métronome allemand, Mensik a été étouffé, hormis peut-être cette petite rébellion du troisième set, mais il a clairement mis les points sur les i, l'Allemand. Il est vraiment le plus fort pour l'instant.
Oui, même si le match était très équilibré dans la première manche, on a très bien vu la tactique qui fonctionnait bien hein, de Menchik, c'est-à-dire de jouer très profond et long et haut sur le coup droit de Zverev et de lui planter des amortis parce que c'est vrai que Zverev, naturellement, se tient loin derrière la ligne. Et c'est là que la tactique fonctionnait bien. Mais petit à petit, eh bien, il a réglé la mire, il s'est rapproché de la ligne, Sacha Zverev. Et puis, dès lors qu'il gagne la première manche, là, on sent qu'il appuie. Là, c'est comme s'il passe une vitesse supplémentaire, ça frappe plus fort. En coup droit, il lâche les coups, on sent qu'il a plus confiance. Et puis, comme par hasard, de l'autre côté, y a un peu de fatigue qui se fait sentir du côté du Tchèque, qui, lui, a beaucoup plus d'heures depuis le début de la rencontre. Et donc, on sent... Voilà, on sent que c'est en train de se déséquilibrer en faveur de Zverev. Et puis, il y a le petit sursaut d'orgueil, heureusement, parce que Menchik est un excellent joueur dans la troisième manche. Et encore une fois, il y avait vraiment de la fatigue du côté Menchik parce qu'à la fin, il ne tenait plus du tout les diagonales revers.
Oui, on l'a vu, Menchik s'éteint physiquement, même si avec son toucher dans le troisième set, Eric, sur les amortis, il a réussi à faire des points et à s'en sortir. Mais dans les deux premières manches et le quatrième... elles n'étaient pas assez bien réalisées. Zverev était tout de suite dessus. La qualité de première balle qui a fait vraiment défaut. Hein. Il était pendant toute la partie à peine 50% de première balle. Quand Zverev finit, je crois, le dernier set à 82 ou 83% de première balle, Menchik n'a pas eu les armes nécessaires pour aller faire douter Zverev aujourd'hui.
Non, mais je crois que le tournant du match, Sarah l'a dit, c'est au milieu du premier set, puisque c'est Menchik qui se procure les premières balles de break. Et là, j'avoue que je suis impressionné par Zverev. Parce qu'il dégage une sérénité, il a des certitudes et il n'a pas tremblé, il n'a pas paniqué. J'ai l'impression qu'il est sûr aussi de son physique parce qu'il y avait, une incertitude après Rome puisqu'il devait jouer en Bourg, il n'y est pas allé. Alors officiellement, c'était...
Alors que c'est chez lui.
C'était chez lui, il avait une petite garantie à prendre. Et finalement, il a décidé de ne pas se rendre en Allemagne pour peut-être se soigner. Il était peut-être vraiment touché. Non, je m'avance peut-être, mais on en a parlé avec ça. Je crois qu'il dispute son 41e Grand Chelem. Hein. Il y a un moment, il faut que ça tombe. Tu sais, c'est comme les jeux dans les fêtes foraines où tu pousses les pièces. Là, il y a un moment, ça tombe. Le lot, il tombe. Donc là, je pense que c'est son heure. Bon, même s'il faut respecter Koboli. Mais j'ai l'impression qu'il va être récompensé pour l'ensemble de son œuvre. Et ce serait logique. On en a souvent parlé avec Sarah en direct dans le Moscato Show. Il a des stats incroyables en Grand Chelem. Alors, c'est sa quatrième finale. La première, il l'avait mal négocié contre Thiem puisqu'il mène 2-7-0, il sert pour le match. Mais c'était un contexte tellement particulier.
Le Covid, US Open.
Ouais. Ensuite, il y a eu cette finale contre, ici même il y a 2 ans, contre Carlos Alcaraz. Il mène 2 manches à 1. Mais c'est vrai que l'Espagnol, derrière, il a été monstrueux. En Australie, 2025, il perd 3-7-0 contre Sinner. Mais il l'a redit en 2025, il ne jouait pas très bien. Mais là, cette année, il y a un truc. Il y a un truc, il sert beaucoup mieux, il l'a dit en conf. Hein. Il y a une année, on se foutait de sa gueule, passez-moi l'expression. Il faisait des doubles fautes de minimes, de débutants. Là, c'est d'une solidité extraordinaire. Donc, j'ai envie de dire, je ne vois pas ce qui peut lui arriver, même si on a les face-à-face. Hein. Koboli l'a battu à Munich, mais ils se sont joués quelques jours plus tard à Madrid et l'Allemand s'est imposé. Donc, il va partir favori. Maintenant, il faut le tenir, ce rôle de favori.
Alors que Flavio Koboli est en train d'envoyer des balles dans les tribunes, c'est pour ça que vous entendez des clameurs. Il y a quelques maillots de la Roma, parce que c'est un tifosi de la Roma. On l'a vu, Koboli, il est venu avec les joueurs du PSG. Ousmane Dembélé, Désiré Doué notamment, Warren Zaïre-Emery. Voilà, il a envoyé quelques balles, là il s'échauffe, il fait quelques services face à son sparring partner. Pour revenir à Zverev, Sarah, il est bien dans son tennis, il est bien dans sa tête, il est bien physiquement. C'est vrai qu'on voit pas comment tout ça peut dérailler dimanche.
Tout ça peut dérailler parce que Flavio Koboli l'a battu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Donc il l'a déjà fait une fois. Mais si on revient et on se concentre que sur Zverev, on sent qu'il est en mission. C'est-à-dire que il fait des. Je pense qu'il prend vraiment sur lui et fait des efforts. On l'a vu aussi parce qu'il y a eu des balles où il contestait un peu l'arbitre. C'est le genre de situation où tu peux perdre un peu ton sang-froid. Et non, tout de suite, il revenait et il essayait de ne pas perdre d'énergie inutilement. En fait, on a l'impression qu'il se comporte déjà comme un vainqueur. C'est-à-dire que chaque match qu'il joue, il se comporte comme un vainqueur, il essaie d'en prendre l'attitude. Et puis surtout, c'est surtout, il est très agressif, c'est-à-dire qu'il n'attend pas que le titre arrive. Il va le chercher sur chaque match. Alors évidemment, il y a de la résistance en face d'adversaires, mais comme s'il il laisse passer l'orage et il monte en puissance parce qu'il a confiance dans son tennis, dans son physique. Mais je pense que mentalement, il s'est mis en mode mission et que pour ça, il faut presque se couper du monde. Totalement se couper du monde, et il le dit, hein, il a coupé le téléphone, parce qu'évidemment c'est tellement gros et c'est tellement évident qu'il faut rester dans le moment présent. Et de ce qu'il dégage sur le terrain, parce qu'il est très grand, il fait 1m98, tu le sens dans sa stature qu'il est il se comporte comme un futur vainqueur. Ça veut pas dire que c'est gagné d'avance, mais en tout cas il en prend la mesure, il en prend l'attitude.
Oui, et on peut dire qu'il y aura pas forcément d'avantage physique. Zverev a passé très peu de temps sur les cours, n'a concédé que 2 sets. On a regardé, là on était à peine à 3h. Son match le plus long, c'était Quentin Lys, 3h07. Flavio Cobolli, qui est sous nos yeux, qui n'a donc pas joué de demi-finale face à Arnaldi. On ne peut pas dire qu'il y aura davantage physique sur ce point, Eric.
Non, d'ailleurs, Zverev l'a dit en conf, il dit que ce n'est pas parce qu'il n'aura pas eu de match aujourd'hui qu'il paraît qu'un avantage. Non, je voudrais insister aussi sur une stat assez rigolote, c'est que je me demande même si ce n'est pas une première, puisque les deux finalistes sont coachés par leur papa. Et c'est assez rare pour être signalé. Et en plus, ça les a rapprochés, puisqu'ils s'apprécient beaucoup. Zverev a dit, on s'est découvert en Lever Cup, il faudra vérifier, c'était il y a peut-être 1 ou 2 ans, quand Cobolli avait été retenu dans l'équipe d'Europe. Et le fait qu'effectivement les papas soient derrière leur fiston, ça les a rapprochés, ils sont très potes. Il y en a un qui supporte la Roma, l'autre qui supporte le Bayern Munich. Mais bon, la Roma est un peu à la baisse tout de suite, hein. Il n'y a pas de risque qu'il se joue en Ligue des Champions. Mais donc c'est une histoire dans l'histoire. Et c'est pour ça que ce match ne va pas être facile non plus pour Zverev, parce qu'il connaît le danger, il sait que le garçon est très talenteux. C'est une finale qui est dangereuse. Tout à l'heure je disais, j'ai l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que sur la distance des 5-7, l'expérience peut faire la différence. Et le service.
Parce que la qualité de service de Zverev aujourd'hui, la régularité de sa première balle, mais de la vitesse, parce qu'on a vu des jeux où il ne sert pas à moins de 200 en première. Et ça, quand plus le match avance, c'est des points possiblement gratuits. Et ça compte beaucoup, ça pèse dans la balance dans un match qui peut durer 4 ou 5-7.
Ah bah le dernier jeu de service, parce qu'il a sa balle de match, on était là 222, 223, même 225 sur une première faute.
Exactement. Non, c'est un énorme point fort de Zverev aujourd'hui, son service, même si on est sur terre battue. Et on le voit aussi suivre au filet derrière sa première, donc continuer à être agressif. Donc je pense que ça, c'est un atout sur un match long.
Ça sera donc la finale de ce Roland-Garros 2026, finale inédite, et on aura donc un vainqueur pour la première fois en Grand Chelem, parce que ni Sacha Zverev ni Flavio Cobolli n'ont déjà remporté de tournois majeurs, et ce sera aussi le cas chez les femmes demain, samedi. Un petit mot, Mirandeva face à Maya Rvalinska. Eric, là aussi, alors Sarah nous disait en début d'émission, je ne peux plus rien pronostiquer, c'est totalement fou. Bon, est-ce que on a une petite idée sur ce qui peut se passer demain, où la Polonaise, qui va disputer son 10e match, sortie des qualifications, elle peut faire un truc de fou, à savoir à Roland-Garros, ça n'a jamais été fait, sortir des qualifications et gagner dans l'histoire du tennis. Et Mara Dukanu l'avait fait à l'US Open.
Ce qui est dingue, c'est qu'elle a commencé son tournoi le 18 mai sur le court Suzanne Lenglen contre la Française Alice Ramé. Elle va finir sur le central, donc c'est une progression qui est logique, hein, tu passes du Lenglen au central. Est-ce qu'elle va être émoussée physiquement? Possible. Est-ce que Mira Andreeva va être décontenancée par le jeu de cette gauchère? Possible, même si, avec Sarah, on avait noté hier, Conchita Martinez, elle a pris des notes, hein. Elle était tout là-haut en tribune des joueurs. On n'avait pas nos jumelles, mais on a reconnu sa tenue et c'était confirmé plus tard. Mais je serais curieux de voir le rapport de Conchita quand elle va présenter Raliska à sa joueuse. Elle va lui dire, fais attention à ça, fais attention à ça. Mais
non, elle ne va pas dire fais attention à ça. Mais non, elle va pas. Non, elles vont mettre en place un plan de jeu. Elles vont dire, voilà, il faudrait que tu joues comme ça, que tu démarres les échanges de cette manière-là, que tu l'emmènes dans cette trajectoire-là pour... Et donc, en fait, elles vont mettre en place des schémas de jeu, des schémas au service et puis des schémas sur les jeux de retour. Et ça, on va le voir dès le début. On va voir parce qu'Andréva ne peut pas jouer comme d'habitude, c'est-à-dire frapper à plat et jouer en cadence.
C'est dangereux de chasser le naturel, non?
Enfin, non, parce qu'elle sait faire plusieurs choses. Elle ne va pas changer son naturel. Elle finira par ça. Mais en revanche, elle va avoir des consignes pour démarrer les échanges, pour qu'elle se retrouve en position de diriger l'échange. Et on va le voir tout de suite, parce qu'elle peut pas commencer les matchs comme elle fait les autres, contre les autres joueuses. Ça, c'est sûr, parce qu'elle doit montrer qu'elle a compris le jeu adverse. Et pour faire douter tout de suite Ralinska... qui, elle va pas changer. Elle n'a pas de raison de changer son système de jeu. C'est celui qui gêne le plus. Donc c'est pour ça que, je répète, les 3-4 premiers jeux vont être très intéressants parce qu'on va voir exactement comment elles rentrent sur le match et quelle est la tactique qu'elles ont mis en place avec Conchita. Et comme ce n'est pas du naturel, je peux te dire que Conchita, elle va coacher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, au tennis, en plus, c'est... Quand tu es à 0-0 ou égalité, c'est très difficile de jouer contre nature. Tu as tendance à te
rassurer dans ce que tu sais faire.
C'est le mieux faire. En revanche, quand tu es dos au mur, eh ben, c'est toujours plus facile de prendre les bonnes décisions. Donc, je pense que Conchita, elle va la coacher comme jamais sur chaque frappe pour que, en fait, effectivement, elle garde sa ligne. Parce que cette ligne de conduite, elle ne sera pas naturelle. Donc, pour l'obliger à rester dedans. Et si Andréva reste dans son schéma tactique, oui, elle va aller gagner son premier grand chelem. Ça, c'est certain. C'est certain. Elle a les qualités tennistiques pour le faire. Mais est-ce qu'elle va réussir à tenir ou on va dire que 70 ou 80% des points, elle va les jouer juste? Ça, c'est un point d'interrogation.
J'ai qu'une envie, c'est que la Polonaise nous sorte 4 tours amortis d'entrée. Non, mais pour voir comment Miranda va réagir, parce qu'on la connaît.
Elle peut
à Indian Wells.
Elle sert très vite, on a vu les stats.
Elle sert très vite, mais l'autre, elle a un œil phénoménal. Elle est capable, avec son verre, paf, de placer une amortie. Et là, l'autre va dire, mais c'est pas possible.
Elle peut disjoncter. Elle a un jeu pour faire disjoncter ses adversaires. Donc, en fait, il ne faut pas qu'elle rentre dans la frustration. En fait, c'est ça. Il faut repousser la frustration le plus tard possible pour continuer à être lucide. Parce que quand on voit, mine de rien, on revient sur le match de Diane Paris qui fait 35 fautes, on se dit, ouais, elle n'a pas mis une balle dans le court. Non, c'est qu'en fait, Ralinska, elle est rentrée dans le cerveau de Diane Paris au point que quand la balle arrivait, elle ne savait plus comment la frapper et où la jouer. Et elle est tombée dans le piège.
Et on verra ce samedi si ce Roland-Garros sera décidément fou. J'ai presque envie de dire, pourquoi pas un couple de vainqueurs, Ralinska, Koboli, tellement cette quinzaine est folle. Merci en tout cas de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux pour nous écouter à chaque débrief de journée. On va prendre un peu de repos. On finit un peu plus tôt aujourd'hui, Sarah, et on sera en forme pour samedi et dimanche.
Exactement. On se donne rendez-vous demain pour la finale dames. Coup d'envoi à 15h, mais nous, on sera avant pour décrypter tout ce qui va se passer sur le terrain.
Exactement. Dès 14h sur RMC, on n'oublie pas aussi nos copains de la radio digitale où vous allez tout savoir. Et à noter demain, attention, Xenia Chastot est en finale en tennis fauteuil chez les femmes. Ce sera... pas avant midi sur le court Suzanne Lenglen. Juste avant, il y a les légendes mixtes avec Marion Bartoli, Gilles Simon contre Nathalie Dechy et Joe Wilfried Tsonga. Un prono sur ce double des légendes, Eric?
Non, le double des légendes, je m'en fiche, j'ai une exil. Non, mais en revanche, on va soutenir Xenia parce que...
Ce serait la première française à gagner un tournoi en fauteuil, hein. Florence Gravelier a été très, très nombreuses fois finaliste. Mais là, on tient une petite perle qui joue et
elle
qui...
Joue une légende, hein.
Ouais.
Attention, une légende qui n'est plus invincible. Hein. Elle a perdu un match récemment alors qu'elle était sur une série incroyable, cette néerlandaise. Non, non, il faudra... Et puis c'est bien qu'il l'ait programmée sur le Lenglen, c'est génial.
Oui, sachant qu'elle a battu la chinoise Li, tête de série numéro 2, en demi-finale aujourd'hui. 3-1, 6-3, 6-1. Elle avait sorti une néerlandaise tête de série numéro 3. Et là, c'est deux gros de tête de série numéro 4. On suivra ça. Et puis, nos petits jeunes aussi, Mathis Demink et Daniel Jade, qui sont en finale du double garçon chez les juniors. Et ça, ce sera la dernière rotation sur le court Simone Mathieu. On va évidemment suivre ça. Ils sont opposés aux Allemands, tête de série numéro 8, Mackenzie et Reissack. Voilà le point pour nos Français encore engagés dans cette journée de samedi 6 juin. À demain. Cours numéro 1, évidemment, avec Sarah Pitkowski et Eric Salio. Ciao.
RMC, cours numéro 1.